Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous allons prier un moment pour la parole de Dieu. Père, je veux te remercier pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ton église ce matin. Et je crois, Seigneur, que tu parles à ton peuple ce matin. Parce que tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui est muet. Mais tu parles et tu transmets la vie au peuple. Au travers de ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, est vivante. En elle est la vie. Elle transmet la vie. Parce que Jésus, ta parole, c'est toi. C'est toi qui exprimes exactement la pensée de Dieu. Et Père, nous te remercions. Parce qu'au travers de ton Saint-Esprit, ce matin, tu nous éclaires. Tu nous montres, Seigneur, ce que nous devons faire pour pleinement entrer dans notre destinée. Je te remercie, Père Céleste. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Nous sommes dans la vie d'Abraham.
Et
je suis en train de faire une série d'enseignements sur sa vie.
Et
nous sommes en train d'étudier 7 clés d'une destinée réussie. Abraham, je vous rappelle, est un personnage très particulier dans la parole de Dieu. Toute la Bible en parle. Il est appelé le père des croyants. C'est l'homme qui a reçu sur la terre la promesse la plus importante qu'aucun homme n'a jamais reçue dans l'histoire de l'humanité. Dieu lui avait donné que par sa descendance, il y aurait un peuple qui va naître, et que ce peuple serait là pour garder et perpétrer et transmettre la connaissance de Dieu sur la terre. Au travers du peuple juif, au travers du peuple juif, le Messie est né. Dieu le Fils s'est incarné. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de la promesse d'Abraham. Abraham est un homme qui a marché dans sa destinée. Et il y a des clés dans la vie d'Abraham qui nous enseignent comment pouvoir réussir dans notre destinée. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. La vie d'Abraham a été mise dans la parole de Dieu pour notre instruction, pour que nous puissions entrer dans les mêmes choses que Dieu a prévues d'avance pour nous. Rappelez-vous que Dieu a une destinée. Dieu a écrit votre futur, en tout cas ce qu'il veut de votre futur. C'est ce que la Bible appelle une destinée, même si ce mot nous ne le trouvons pas dans la parole de Dieu. Le mot destiné se réfère à un cours des événements qui est prédéterminé. C'est-à-dire une succession d'événements voulus par Dieu qui sont préinscrits pour ta propre vie. Rappelle-toi, tu n'es pas là par hasard. N'acceptez jamais ce mensonge du diable. Quelles que soient les circonstances de votre naissance, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous avez grandi, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous êtes passé, ne pensez jamais que vous êtes là par hasard. Parce que Dieu a déterminé à l'avance un certain nombre de choses sur votre vie. Et il veut les réaliser. Mais nous avons vu aussi que Dieu ne fera pas tout tout seul. Dieu est là pour agir avec sa puissance. Mais cela dépend, la réalisation de notre destinée dépend de nous. Dépend de nous. Et il y a des clés que Abraham a utilisé dans sa vie personnelle. Je ne sais pas s'il en était conscient ou pas, mais il est sûr que Abraham a utilisé ces clés, et ces clés sont indispensables pour nous. La première clé que nous avons vue, c'est bien sûr avoir une vision. Et quand je parle d'avoir une vision, c'est pas forcément un jour se retrouver et voir quelque chose devant nous comme un film.
ubone ikintu umenga ni cinema gice imbere yawe.
La Bible nous dit qu'il y a différents types de vision.
Bibiliya tugira yuko hari kwerekwa mu buryo butandukanye.
Je peux voir quelque chose dans mon esprit.
Ndashobora kubona ikintu mu mpwemu yanje.
Ou d'un seul coup je peux être ravi en esprit, c'est-à-dire que le monde autour de moi disparaît et Dieu m'amène dans sa sphère spirituelle.
Cyangwa ndashobora gukugwa mu mubiri ugasanga isi nkikujira zimanganye nkijira mu by'impwemu.
Ou parfois on peut voir carrément des choses, un ange nous apparaître.
Cyangwa ubona umumarayika arakwiyeretsa arakubonekeye.
Moi personnellement, le seul type de vision que j'ai jamais reçu, c'est des visions dans mon esprit. Et c'est tout, il y a des gens qui ont vu des anges, il y a des gens qui ont été ravis en esprit. Mais je ne parle pas forcément de voir quelque chose dans ce sens-là de la vision. Parce que ça, c'est à l'initiative de Dieu. C'est une initiative divine. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'avoir une vision générale dans sa vie, c'est savoir ce que le Seigneur a pour nous d'une manière générale. Qu'est-ce qu'il a prédéterminé pour nous dans les grandes lignes de notre vie. Nous le savons, sans vision, le peuple périt, le peuple est sans frein, le peuple fait n'importe quoi. Dans Proverbe 29-18, c'est ce qu'on a
vu.
Donc nous avons découvert que cette première clé, c'était avoir une vision pour notre vie.
Objectif.
Voilà ce que j'attends de toi. Et c'est exactement ce que Dieu va dire à Abraham dans Genèse chapitre
12.
Nous allons le relire et ensuite je vais vous donner la deuxième clé.
La deuxième clé
qui vous permettra, après d'avoir reçu votre destinée, savoir ce pourquoi vous avez été créé. Et je vous rappelle que ça se recherche dans la prière. Et je vous ai montré ces principes la dernière fois. Maintenant, nous allons avancer dans cette clé. Dieu dit à Abraham, Genèse 12, verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviendra dans une grande source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ici, nous avons vu que Dieu va lui parler. Et Dieu donne à Abraham, je dirais, la vision très générale de ce qu'il veut faire de sa vie. Dieu ici ne lui donne pas de détails. Et je vous ai montré que quand vous recherchez la volonté de Dieu, la première étape que Dieu va vous montrer, c'est ce qu'il a en général pour vous, une orientation globale. Et je vous ai montré cette image de l'adresse, une adresse physique de quelqu'un. C'est un continent,
un
pays, une ville, une rue et un numéro de rue. Et là, on trouve la personne. Donc Dieu, au départ, nous donne, entre guillemets, le continent. Voici ce que j'ai pour toi. Voici ta destinée. Et c'est ce que Dieu disait à Abraham ici. Donc ça a été sa première clé, nous en avons parlé. La deuxième clé, et c'est une clé indispensable à comprendre, ça va être l'obéissance. Et ce matin, on va parler de l'obéissance. Parce que c'est une clé indispensable. Nous allons voir ce qu'est un cœur obéissant. Nous allons voir le fruit de l'obéissance. Et nous allons voir aussi le fruit de la désobéissance. Et je vous garantis, après ce message de ce matin, vous serez prévenus. Vous savez, un serviteur de Dieu n'a pas l'onction pour faire pratiquer la parole de Dieu à ses brebis. Il a seulement une onction pour enseigner ou pour prêcher la parole, transmettre la parole d'une façon ouinte. Mais il n'a pas l'onction pour faire pratiquer la parole de Dieu aux auditeurs. Alors, on va étudier cet aspect d'obéissance. Au verset 4, alors qu'Abraham a reçu sa destinée, Abraham va faire quelque chose. Rappelez-vous, il reçoit un ordre de Dieu. Dieu lui dit, va-t'en, verset 1, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et au verset 4, il est dit, Abraham partit comme il avait envie de le faire. Il est bien dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran ou de Charan. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot et tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran ou Charan. Il sortit pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan.
Ajana Sarai umugore wiwe na Lot muhungu wabo nitunga ryabo byose bari batungiye iharani bona abantu baronkeyeho baronkeyeyo bavaho ngo baje mu gihugu cy'Kanani.
Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et il dit: je te donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu, puis il leva son camp de là. Pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel, il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev, c'est-à-dire dans le sud d'Israël.
Ngo Abraham adwebera icyo gihugu ashika ahantu hitwa Shekemu ku giti cy'umwero n'icamore icyo gihugu abanyakanani nibo baba muri icyo gihugu uhoraho yereka Aburamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoru iki gihugu aca hubaka igicaniro yubaki uhoraho amwiyeretse arikora avayo aja ku musozi wo ku ruhande rw'iburasirazuba rw'Ibeteri ahashinga amahema Ibeteri hasigara iburengerazuba bwiwe ihayi hakaba iburasirazuba bwiwe naho nyene ahubakira uhoraho igicaniro yambaza izina ryiwe nuko Aburamu akomeza kugenda aratahira yerekeye inegebo.
On va parler de cette obéissance.
Turagomba kuvuga ku bijanye n'uku kumvira.
Parce que l'obéissance est quelque chose qui est super important.
Kubera burya kumvira ni kintu gihambaye cyane
gose. Regardons Hébreux 11 verset 8.
Turabire hamwe Abaheburayo 11 murongo 8.
Hébreux 11 8. Nous parle d'Abraham. Et on va voir les difficultés que Abraham va subir à obéir à Dieu. On va parler de l'obéissance. Je vais vous montrer que si vous voulez un chemin facile avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Les gens qui veulent le chemin facile, ce sont les gens qui sont opportunistes et qui vont donc céder à la chair au moins d'autres trucs qui se présentent devant eux. Obéir au Seigneur n'est pas quelque chose qui est forcément facile. Par contre, nous allons voir les fruits de l'obéissance. Mais d'abord, on va voir les difficultés et on va voir ce qu'implique notre obéissance. Verset 8, il est dit: c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, héritier avec lui, de la même promesse. Ici, en fait, la Bible nous montre clairement une chose. Abraham va partir sans savoir où il allait. Il va habiter sous des tentes. Abraham habitait une ville qui s'appelait Charan. Les recherches archéologiques nous ont montré que c'était une ville très développée pour l'époque. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, on est environ en 1900-1950 avant Jésus, presque 2000 ans avant Jésus. Il y avait très peu de villes dans l'humanité. C'était surtout à cette époque-là encore beaucoup, donc la Mésopotamie, tout ce qui est Irak, Iran, vers l'Inde, et puis toute la partie du bassin méditerranéen qui était habitée par les hommes. Il n'y avait pas d'hommes pratiquement ailleurs dans la sur la terre. Ça, faut qu'on comprenne. En Amérique du Nord, il
n'y
avait personne à cette époque-là. En Australie, il n'y avait personne à cette époque-là. Etc., etc. Dans plein d'endroits du monde, il n'y avait pas encore de monde. C'était vide. Aujourd'hui, on a une vue globale sur le monde. À l'époque, il n'y avait pas de vue globale sur le monde. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Donc Dieu va lui demander en fait de quitter sa zone de confort. Dieu va lui demander de quitter cette zone de confort qui, dans laquelle Abraham certainement était bien dans un sens. Et dès qu'il va partir, Abraham était bien, il avait tout ce qu'il lui fallait, il était très largement pourvu. Il était sécurisé dans une ville. Parce qu'Abraham a dû après vivre toute sa vie sous des tentes, à être un nomade, sans pouvoir se fixer. Abraham n'a pas construit de ville, n'a pas bâti de ville. Dieu voulait qu'il soit nomade. Cet homme a passé des dizaines d'années de sa vie à être nomade. Il a passé 100 ans à être nomade. Parce qu'Abraham va mourir à
175
ans.
Et
là, la Bible nous dit qu'à 75 ans, Dieu lui dit de partir. Abraham était d'une famille d'idolâtres. Ses parents étaient des adorateurs d'idoles. Comment Abraham a-t-il reçu une révélation de Dieu? On ne sait pas. Mais cet homme avait compris certains principes avec Dieu. Toutes ces villes de Mésopotamie étaient remplies d'idolâtrie. Étaient remplies de toutes sortes de choses où Dieu était complètement absent. Et Dieu s'est choisi un homme. Abraham, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit. Verset 8. Et il partit sans savoir où il allait. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? L'obéissance, c'est exécuter un ordre de quelqu'un qui est supérieur. C'est se soumettre à quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous dit tu dois faire ça. Alors c'est sûr que dans ce monde, quand ce sont des hommes qui nous disent tu dois faire ceci ou cela, il y a bien évidemment, si c'est ton patron qui te dit de faire ça, tu dois le faire parce que c'est ton patron. Et s'il te dit tu dois faire ceci ou cela, tu es embauché, tu es sous sa responsabilité, c'est ton boss, donc tu obéis. Tu obéis parce que c'est ton patron. Et que si tu refuses d'obéir, alors qu'il t'a donné un ordre, eh bien il peut te dire, mon cher, bye bye. Et il aura raison de le faire d'ailleurs. Sauf bien sûr s'il te demande des choses qui sont du péché, bien évidemment. L'obéissance, vous devez le savoir, c'est un trait de caractère. Dieu, quand il nous dit de faire des choses, nous teste. Il faut que vous sachiez une chose. Le caractère se travaille. Le caractère, c'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas quelque chose que tu as comme ça du jour au lendemain. Si par exemple, tu avais l'habitude d'être très rebelle avant d'être sauvé, rebelle à toutes sortes d'autorités, rebelle à l'autorité paternelle par exemple, rebelle à l'école, rebelle dans tous les domaines où tu pouvais te trouver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois une autorité quelque part, tout de suite, tu as envie d'une chose, c'est de te bagarrer avec cette autorité. Ça veut dire que tu as un caractère rebelle. Et ça peut se travailler et ça doit être changé. L'obéissance s'apprend. Ce n'est pas un don de Dieu. Donne-moi un cœur obéissant. Non, Dieu ne fera pas ça pour toi. C'est toi qui vas devoir t'humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux t'obéir. Si tu me parles, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. J'accepte de faire ce que tu me demandes. Je vais vous montrer dans l'écriture que l'obéissance s'apprend. Regardons ensemble dans Hébreux chapitre 5 verset 8. Hébreux 5:8. Jésus notre modèle. Et vous allez voir en quoi Jésus a appris l'obéissance. Il est dit verset 8. Et il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Jésus, Dieu le Fils, en chair, a appris l'obéissance. Il a appris à obéir à la pleine volonté du Père. Donc l'obéissance, ça s'apprend. Donc c'est quelque chose qui va s'apprendre. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est un choix. L'obéissance est un choix. Tu as un ordre de Dieu. Tu peux choisir d'obéir ou de désobéir. Le choix t'appartient. Rappelez-vous d'une chose. Nous sommes en train d'étudier les clés de notre destinée. Les clés de cette destinée, nous les avons dans la main. Nous devons donc les connaître et savoir les utiliser à bon escient, c'est-à-dire là où il faut les utiliser et quand il faut les utiliser. Ce choix ne peut être motivé que par une chose. La compréhension de l'amour de Dieu pour nous. Vous pouvez vraiment obéir d'une façon scripturaire selon le cœur de Dieu seulement si vous avez une révélation sur la compréhension de l'amour de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu ne vous forcera jamais à obéir. Dieu n'est pas un tyran. Dieu ne vous fera pas des pressions pour obéir. Mais votre obéissance dépend de vous et de la révélation que vous avez de l'amour de Dieu pour votre vie. Quand vous savez que quelqu'un vous aime, qu'il veut le meilleur pour vous, et il vous dit de faire certaines choses qui au premier abord ne peuvent pas forcément vous plaire, vous allez obéir parce que vous savez que cette personne a les meilleures intentions du monde pour vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez. Vous ne pouvez pas arriver à un degré profond d'obéissance sans avoir cette révélation profonde que Dieu vous aime et qu'il a le meilleur pour vous. Tu ne peux pas être vraiment obéissant dans ces cas-là si tu n'as pas cette révélation. Parce que cette révélation de l'amour de Dieu vient avant de vraiment obéir d'une façon profonde à Dieu. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
C'est très important ce que je vous dis. Parce que si vous pensez que Dieu, bon, il vous aime, oui, il vous aime. Bon, il vous aime parce qu'il vous a sauvé, mais dans le reste, vous n'êtes pas bien sûr. Si vous n'avez pas cette pleine conviction et révélation de cet amour divin, que Dieu a le meilleur pour vous. Je vais vous dire, quand vous aurez des temps où Dieu va vous parler, vous devrez obéir. Vous n'allez pas obéir. Je veux vous prendre l'exemple du mariage. Des fois, des gens se font rouler par leurs sentiments parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a le meilleur. Ils attendent, ça traîne. Et il rentre dans une désobéissance. Dans tout un tas de principes de, je dirais de magouille, il faut être clair, pour certains. Pour essayer de faire avaler les choses aux gens. Alors qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de désobéir délibérément. Souvent, quand nous cédons à la chair et au péché, c'est parce que nous n'avons pas une révélation profonde de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Et il se retrouve devant des opportunités. Ça peut être des impressions, des pressions financières. Ça peut être toutes sortes de choses. Ou finalement, on est là et on a prié, oui. On a attendu longtemps. On ne voit pas les choses s'accomplir. Et au bout d'un moment, on cède à la chair. Tu verras que souvent tu cèdes à la chair. Parce que tu n'as pas cette révélation que Dieu t'aime et a le meilleur pour toi. Et comme ça traîne, tu commences à douter de l'amour de Dieu. Obéir au Seigneur, c'est quelque chose d'excellent. Mais parfois, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pas facile. Ça demande de la foi. Ça demande beaucoup de foi. Mais vous savez, il y a un fruit de l'obéissance. Un fruit extraordinaire. Après avoir défini ce qu'est l'obéissance, en vous montrant que ça vient de votre caractère, en vous montrant que ça s'apprend, on apprend à obéir, on se soumet à Dieu. Maintenant, je vais vous montrer le fruit de l'obéissance. Parce que ça, il y a un grand fruit de l'obéissance. Un fruit qui est absolument extraordinaire. On le voit dans la vie d'Abraham. Et ça, c'est tout à fait typique. L'obéissance va amener la révélation.
kumvira bizana guhishurirwa.
Il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent pourquoi j'avance pas dans ma vie spirituelle.
Ati kubera iki mu buzima bwanje bw'impwemu je ntatera imbere.
Cherche si tu as un cœur obéissant.
Rahaba nimba ufise umutima wo kumvira.
Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils avancent pas.
Harabatari bakibaza ati kubera iki je ntatera imbere.
Souvent les chrétiens n'avancent pas.
Abakristo badatera imbere mu buzima bwabo.
Parce qu'ils n'ont pas un cœur obéissant.
Kubera ko usanga badafise umutima wo kumvira.
Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça.
Hari benshi usanga batabitahurira.
L'obéissance
ukumvira
amène à la révélation.
Kuzana guhishurirwa.
Je vais vous montrer cela.
Ngomba kubibereka.
C'est dans l'écriture.
Biri mu ijambo ry'Imana.
Et c'est quelque chose qui est très très fort.
Kandi ni ikintu gikomeye cyane
gose. Parce qu'il y a une puissance dans votre obéissance.
Kubera yuko hariho ubushobozi umuntu
yumvira. Obéir à la parole de Dieu.
Kumvira ijambo ry'Imana.
Obéir à ce que le Seigneur vous demande.
Kumvira icyo Imana igusabye gukora.
Ça amène une puissance dans vos vies.
Bizana ubushobozi mu buzima bwawe.
Ça fait mal à la chair. Vous savez, quand Abraham a dit bye bye à ses parents, à toute sa famille, il ne savait pas s'il les reverrait un jour. Et apparemment, il ne les a jamais revus. Apparemment, il n'a jamais revu sa famille. Apparemment. En tout cas, quand on regarde la suite de sa vie, il n'est pas revenu à Charan pour aller voir sa famille ou quoi que ce soit. On ne sait pas ce qui s'est passé de ce côté-là. Abraham a créé un nouveau chapitre au travers de son obéissance de la destinée de l'humanité. Dans l'obéissance, il va y avoir la révélation. Regardez bien ici. C'est très très important ce que je vous enseigne ici. Regardons ensemble, reprenons le texte de Genèse 12. La première révélation qu'Abraham a reçue, c'est Dieu qui lui dit, voilà, tu sors de ta famille, de ta patrie. Et Dieu lui donne, voilà, je ferai de toi une grande nation, tu seras une source de bénédiction, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était un peu le plan général, le continent. Abraham obéit. Et comme il va obéir, alors Dieu va se révéler encore à lui. Quand Dieu vous a parlé une première fois sur votre destinée,
rappelez-vous,
il vous donne le continent. Mais vous avez besoin de précision. Et vous n'aurez pas ces précisions. Dis à ton voisin, tu n'auras jamais ces précisions. Sauf si tu obéis. L'obéissance va être une clé
pour
la révélation. Pour la révélation. On va le voir dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham, c'est vraiment typique dans la révélation de la volonté de Dieu et de notre destinée. C'est comme un livre qui va s'ouvrir de plus en plus. Et vous allez au plus profond de l'histoire. Dans le détail de l'histoire. L'obéissance va amener la révélation. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham obéit.
Abraham arumvira.
Il rentre sur le terrain de sa bénédiction. Là, on va en parler. Il est dit, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta descendance.
Guhoraho yiyereka Aburahamu ku murongo w'indwi aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu uruvyaro rwawe.
Là on a des précisions.
Hano dutangiye kubona rero ibitomo Imana imubwira.
Dieu lui avait dit je ferai toi une grande nation, etc.
Imana amubwira ati nzokugira ihanga rikomeye.
Première révélation. Pour maintenant avoir le pays, il a eu le continent, maintenant pour avoir le pays, c'est toujours l'image que je prends. Entre temps, Abraham devra obéir. Si Abraham était resté à Charan, qu'il était resté assis sur sa chaise en disant Saint-Esprit, oh Alléluia, Saint-Esprit, il n'aurait rien eu. J'avais dit Dieu, non, moi je ne veux pas partir tant que tu ne m'as pas expliqué tout ce que tu veux pour moi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu t'a parlé sur quelque chose, apprends à te mettre sur le terrain de ta bénédiction. Si tu n'obéis pas, il ne se passera plus rien dans ta vie.
Tu vas
être là et tu vas passer par un immense désert. Parce que Dieu t'aura demandé de faire des choses, de te mettre sur le terrain de ta bénédiction. Abraham, lui, il obéit au Seigneur. Il se retrouve dans le pays de Canaan. Pourquoi? On ne sait pas exactement. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à l'époque, ils suivaient les fleuves. Les fleuves, c'était leur route, en quelque sorte. Ils se repéraient avec les fleuves. Comme ici, pendant des siècles, on s'est repéré avec les lacs, de droite et de gauche. Ici, en Afrique, c'était simple de se repérer avec des lacs. Des gens ont pénétré au cœur de l'Afrique et des continents en général. Au départ, c'était grâce aux rivières.
Les rivières et les lacs.
Parce que c'était des choses reconnaissables d'une façon naturelle.
Donc,
on sait qu'Abraham a suivi le fleuve. Et il s'est retrouvé au bout d'un certain temps, pas très loin du pays de Canaan, et apparemment, il est arrivé au pays de
Canaan.
Et Dieu se révèle à lui à nouveau. Il lui dit, ce pays-là, cet endroit-là, c'est ça que je vais donner à ta descendance. Donc Dieu commence à préciser la destinée d'Abraham. Il précise la destinée d'Abraham. Et Abraham, pour l'instant, est au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Il va adorer Dieu. On expliquera aussi la clé de l'adoration. Quand tu es sur ton territoire, là où Dieu t'a donné l'endroit où tu dois poser tes pieds, spirituellement, matériellement, dans tous les domaines, c'est là où tu vas pouvoir commencer à régner. C'est là où tu vas voir que les choses vont se développer devant ta face. Et Abraham va faire une erreur. Et autant l'obéissance amène la révélation, amène la puissance de Dieu, amène la protection, parce qu'Abraham ne sera pas touché pour l'instant. Et rappelez-vous, on est dans une époque tribale. D'ailleurs, juste un peu après, on va voir. Abraham va être impliqué dans une guerre avec plusieurs rois. C'était dangereux, ces coins-là. Il y avait des gens qui pouvaient repérer votre campement et vous piller complètement pendant la nuit. Vous tuer, enlever les femmes et les enfants, piller vos biens, et vous étiez éradiqué de la surface de la terre. C'était courant à l'époque. Abraham allait vivre une protection surnaturelle. Parce que l'obéissance amène une autre chose. Amène la protection. Amène la protection. Tu peux être au milieu des pires dangers. Si tu es sur le terrain de ta bénédiction, personne ne pourra te toucher. Il peut y avoir 10 000 qui tombent à ton côté. Toi, tu ne seras pas
atteint.
Parce que tu es sur le terrain de ton obéissance, le terrain de ta bénédiction. Personne ne peut toucher à ta vie. À partir du moment où tu es sur le terrain de ta bénédiction, sur le terrain de ton obéissance. Et Abraham, après, va goûter l'opposé de l'obéissance. Juste un peu après, il va faire quelque chose. Verset 10, toujours dans Genèse 12. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'abattit sur le pays. Abraham est en pleine obéissance. Mais il y a des mauvaises circonstances. C'est pas parce que vous obéissez à Dieu que tout sera rose et que tout va bien se passer. Pas du tout. Dans Matthieu 14, il y a une histoire qu'on ne lira pas là, mais je vais vous l'expliquer. Parce que vous la connaissez. C'est Pierre qui va marcher sur l'eau. On va quand même y faire un petit tour, je pense que ça va vous aider. Matthieu chapitre 14. Ça aussi, je veux éradiquer ça de vos façons de penser.
Matthieu 14, verset 22.
Je vais éradiquer quelque chose de vos façons de penser, de vos mentalités par rapport à
Dieu.
Parce que vous savez, si vous n'avancez pas avec Dieu ou peu avec Dieu, c'est souvent parce que vous avez des mentalités qui ne sont pas conformes à la mentalité de Dieu. Ici, nous voyons un exemple tout à fait typique de ce que je veux vous illustrer avec Abraham. Matthieu 14, verset 22, il est dit « Ensuite, il, Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, c'est-à-dire quelques kilomètres, malmenée par les vagues, car le vent était fort, c'est-à-dire qu'il y avait une tempête. » Regardez bien que le premier verset que nous avons lu, il est dit que Jésus obligea ses disciples.
C'est-à-dire
il leur a dit, voilà, vous, allez, hop, vous partez dans la barque ici, et vous traversez le lac, je vous rejoindrai un peu plus tard. Vous êtes d'accord que c'est bien une direction divine? C'est Jésus qui leur a dit, allez-y. Donc vous êtes d'accord qu'ils étaient au milieu, au centre, au, je dirais, au noyau même de la volonté de Dieu? Et malgré cela, une tempête va se lever. Ne pensez pas que parce que vous êtes en train d'obéir à Dieu, qu'il n'y aura aucune tempête dans votre vie. Non, il y aura des tempêtes. Par contre, comme vous savez comment naviguer, parce que vous avez les conseils du Très-Haut, vous allez vous sortir de cette tempête. Vous allez savoir naviguer dans ces eaux de tempête. Parce que vous savez que vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Et Jésus fera la même chose qu'avec ses disciples. Il se présentera miraculeusement. Et se montrera. Et vous sortirez indemne. Mais ne pensez pas qu'il y aura toujours des bons jours à partir du moment où vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens croient. Oh, ben, si le Seigneur m'a parlé, que j'ai obéi, tout va bien se passer. Non, il va y avoir d'autres clés que tu vas être obligé d'utiliser. Tu auras besoin de foi. Tu auras besoin d'utiliser ton autorité spirituelle. Tu auras besoin de savoir comment Dieu fonctionne. Pour justement passer au travers de cette tempête. Mais là, tu verras, tu auras les expériences les plus extraordinaires. Abraham obéit. Revenons à Genèse 12. Mais là, il y a de mauvaises circonstances. Une famine. Et Abraham va prendre une décision. Il prend une décision. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apesantit sur le pays. Verset 10, la moitié du verset 10. Là, il fait une erreur. Et il va en manger des fruits. Il va voir aussi la bonté de Dieu. Mais il a failli passer à côté de sa destinée. Abraham connaissait très bien les coutumes des nations environnantes. Vous savez, dans le livre de la Genèse, il y a des choses qui nous échappent un peu parce que on voit parfois des personnages réagir d'une certaine façon. On le verra avec l'histoire de la servante et Abraham. On verra que dans la vie d'Abraham, il y a un combat constant entre la mentalité de Dieu et la culture des nations de l'époque. Et on verra par exemple que cette histoire de, comment dire, de faire un enfant avec la servante, c'était très culturel quand la femme ne donnait pas d'enfant. Mais c'était pas la mentalité de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Abraham a accepté ce genre de plan là de sa femme. Donc on expliquera tout ça. Ici, Abraham va être confronté encore à un problème. Un problème de culture. Il va descendre en Égypte. Et en Égypte, c'était commun. À partir du moment où vous mettiez le pied dans le territoire égyptien,
le roi avait le droit
de prendre tout ce qu'il voulait qui vous appartenait. Ça voulait dire vos biens. Ça voulait dire aussi votre femme. Et Abraham le savait. C'est pour ça qu'il va dire à sa femme, tu sais, t'es trop belle. Si jamais le pharaon apprend que t'es dans le coin, moi, il pensait à lui. On va me... Et toi, tu vas terminer comme la 299e femme et demie de Pharaon.
Alors
évidemment, il se met d'accord. Lorsqu'il fut arrivé en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons, je sais que tu es une belle femme. » Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Et rapidement, je vais vous lire la suite de l'histoire. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarai, femme d'Abraham. Lorsque le Pharaon appela Abraham, il lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc ici, on voit cette histoire. Cette histoire, il faut la comprendre à la lumière de la culture de l'époque. Abraham dit à sa femme, c'est ma sœur. Donc il savait très bien qu'il courait un risque. Et là, ça nous montre, quand tu commences à quitter le terrain de ta bénédiction, d'un seul coup, tu reprends tes vieilles mentalités du vieux monde. Vous connaissez l'histoire du verre d'eau à moitié plein et du verre d'eau à moitié vide. Vous ne la connaissez pas, si vous la connaissez,
certainement.
Hein, la différence entre un verre d'eau à moitié plein et un verre d'eau à moitié vide. Je remplis la moitié du verre et je pose la question à 10 personnes différentes. Est-ce que ce verre est à moitié vide ou il est à moitié plein? Tout dépend de la perception de chacun. Et là, Abraham va dire à sa femme, dis que t'es ma sœur. En fait, ils étaient quand même relativement d'une famille rapprochée. Donc, il y avait quand même un demi-verre vide. Et c'était aussi un demi-verre plein. Il y avait un demi-mensonge et une demi-vérité. Mais vous voyez tout de suite, Abraham reprend la mentalité du vieux monde. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de marcher en dehors de sa bénédiction. Il est en train de quitter à cause des circonstances. Quand tu es dans ton terrain de bénédiction, quand tu es sûr que là tu es dans la bonne étape de Dieu, tiens-toi ferme, même si tu deviens aussi maigre que Steve. Et en fait, vous voyez, les circonstances parfois nous pressent.
Tu sais
que tu as obéi au Seigneur, mais tu vois tout ce qui tombe sur la tête, la tempête.
Tu dis,
ah non, je vais me mettre un peu à l'écart pour, pour me reposer un peu. Abraham était en train de chercher de la nourriture, c'était légitime. Pourtant, il avait de l'argent. Il avait beaucoup de bêtes, c'est ce que la Bible dit. Donc, je pense qu'il ne manquait pas de viande. Maintenant, le reste, peut-être que tout ce qui était eau et tout ce qui était, je dirais, grains, tout ce qui pouvait être légumes, il n'en avait pas.
Les fruits, etc.
Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir du terrain de sa bénédiction. Mon frère, ma soeur, ne fais jamais cette gaffe-là. Parce que là, tu vas être obligé de retourner dans tes plans. Allez, je vais prendre quelques exemples. Il y a des gens, Dieu vraiment les veut ici dans cette nation. Mais comme ils vivent des circonstances difficiles,
bon,
ça a été la guerre. Ça peut être les circonstances économiques. Ils font tout pour partir à l'étranger. J'en reçois des courriers électroniques. Et je crois qu'il y a une semaine ou deux, j'en ai encore reçu. Pasteur, je ne comprends pas. Ce n'est pas quelqu'un que je connais, hein, mais ils m'écrivent au travers d'enseigne-moi. Pasteur, je ne comprends pas. Rien ne va dans ma vie.
Je
n'ai pas de boulot. Je suis malade. J'ai des problèmes partout. J'ai des problèmes familiaux. Mon fiancé m'a abandonné. Rien ne va plus. C'est vrai, je suis parti et c'est depuis que je suis parti.
Ah.
Quelqu'un qui certainement marchait avec le Seigneur dans son pays. Fais attention. Dieu a un endroit où il te veut. C'est ton terrain de bénédiction. Terrain spirituel, terrain physique aussi. Abraham a commencé à désobéir. Si Dieu te dit de te mettre dans tel ou tel secteur de l'économie, par exemple, fais-le, même si c'est difficile aujourd'hui. Si Dieu te dit d'orienter des études de telle ou telle façon, fais-le. Si Dieu te dit d'arrêter telle ou telle chose, fais-le. Tu vas peut-être souffrir un temps. Mais crois-moi, l'obéissance, ça paye. Abraham était sur son terrain. Il a eu une mauvaise circonstance. Il s'est écarté. Imaginez-vous. Pharaon l'appelle. Il lui fait tous les honneurs. Abraham connaît la culture.
Il
se dit, s'il découvre que c'est ma femme, en attendant, il est là. Oh, monsieur Abraham. Sous-entendu, vous nous avez amené une belle femme. On va vous amener des brebis. On va vous couvrir de bien. Alors Abraham regardait toutes les belles choses qu'on était en train de lui donner. Pourtant, il était riche. Il n'était pas dans un temps où il devait récupérer des biens pour s'en sortir. Il est sorti avec toutes ses richesses de Charan.
Il avait de grands biens à l'époque quand il est sorti de Charan.
Et là, le pharaon le bénit à cause de Sarah. Alors pharaon, il devait dire, oh merci mon pharaon, j'espère que tu ne vas pas me couper la tête. Seigneur, qu'il ne découvre pas la vérité, s'il te plaît. Aveugle-le Seigneur. Aveugle les douaniers, aveugle les policiers, Seigneur, au nom de Jésus.
Aveugle-le.
Que surtout il ne découvre pas la vérité. Vous voyez, il est dans ses mentalités. Je suis sûr qu'Abraham a prié. Quand il a reçu ces choses-là, il devait sourire, mais vous savez, d'un sourire, oh là là. Aujourd'hui, on me bénit, entre guillemets.
Vous savez,
il y a des bénédictions qui ne sont pas bonnes à prendre.
Ce
n'est pas des bénédictions selon Dieu. Fais attention. Il y a des fois des choses que tu peux prendre parce que tu penses que mais tu n'es pas dans le terrain de ta bénédiction et c'est dangereux pour toi. Fais attention. Là, Abraham était en train de recevoir des choses. Mais quelques jours plus tard, quand le pharaon a découvert, il a presque chassé à coups de pied aux fesses. Et Abraham devait courir avec ses brebis que le pharaon lui avait donné. J'espère qu'ils ne vont pas m'attraper entre temps. La désobéissance enlève la protection de Dieu. Faites attention à
ça.
La désobéissance
kutumvira
enlève la protection de Dieu.
Gukuraho kurindwa kw'Imana.
Et après tu vas dire, ah c'est le diable. Non, c'est toi. C'est pas le diable, c'est toi qui désobéis. C'est toi qui sors du terrain de la bénédiction.
Ah,
c'est sûr que si ta protection s'enlève, là l'ennemi il en profitera. Et là tu te retrouveras dans un tourbillon, dans des tempêtes.
Ou
la seule chose que tu pourras faire, c'est dire, Seigneur pardon, je me repens et je reviens sur le terrain de ma bénédiction.
Il n'y
a pas d'autre choix, il n'y a pas de marchandage avec Dieu. Si Dieu te dit c'est ça que tu dois faire maintenant, tu dois le faire, quelles que soient les circonstances. Si tu sors du terrain de ta bénédiction et que tu te retrouves dans des tempêtes, la seule solution, ça sera la repentance et de revenir sur le terrain de ta bénédiction. Il
n'y
aura pas d'autre marchandage avec Dieu.
Ah,
Seigneur, tu ne peux pas me bricoler un plan B ou un plan C. Dieu n'a pas de plan B ou plan C pour toi. Dieu a son plan. Tu dois rester là où il te demande de rester. Tu dois obéir jusqu'au bout. Tu dois faire attention à ne pas céder à ta chair. Et si tu sors de ta bénédiction, de ton terrain, tu ne verras pas Dieu se révéler à nouveau à toi.
Et
il ne le fera pas tant que tu ne seras pas sur tes genoux en train de dire, Seigneur, pardon, qu'est-ce que j'ai fait,
Seigneur.
Abraham a failli perdre toute sa bénédiction. Si Pharaon avait couché avec sa femme, ça aurait été un drame. Et Dieu a dû intervenir d'une façon miraculeuse pour le protéger, pour le sortir de ce problème. Donc l'obéissance est quelque chose d'indispensable dans nos vies. Plus tard, Abraham va encore apprendre l'obéissance. Nous le verrons. Dans Genèse 22, Dieu va lui demander d'offrir son fils Isaac. Là, nous verrons le changement du degré d'obéissance d'Abraham. Entre-temps, son caractère aura été travaillé. Il aura été modelé. Si ton cœur ne devient pas de plus en plus obéissant, année après année, ça veut dire que
tu as
un problème et que tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne. L'obéissance, rappelez-vous, amène la révélation. L'obéissance amène la protection. Quand tu sors du terrain de ta bénédiction, tu te mets sur le terrain où l'ennemi peut en profiter. Mais obéir ne fera pas que tous les jours de ta vie seront avec un joli soleil brillant. Il y aura des moments difficiles, mais c'est là où Dieu te rencontrera. Comme Jésus est venu rencontrer ses disciples alors qu'ils étaient au milieu de la volonté de Dieu, mais au milieu de la tempête, le Seigneur est venu pour les secourir et pour les aider. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je vous demande de rester quelques minutes encore ici,
parce
que je veux appeler les pécheurs, s'il y a des pécheurs parmi nous. Merci de vous lever. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est puissante. Ta parole est merveilleuse. Je prie pour que ce peuple apprenne à t'obéir.
Qu'il
apprenne à t'aimer, Seigneur. Que, Seigneur, nous puissions voir dans chacun d'entre nous un cœur qui t'obéit davantage. De plus en plus, Seigneur. Parce que c'est ce que tu veux. Tu veux que nous marchions sur le terrain de notre obéissance. Parce que c'est alors que tu révèles davantage ta volonté. C'est alors que nous sommes protégés surnaturellement. Et que, Seigneur, quand il y a des tempêtes qui se lèvent, Seigneur, à ce moment-là, tu es capable de nous aider, de nous rencontrer dans ces tempêtes, pour nous amener à la bonne destination. Père, je te remercie pour cela.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.